Nicolas fit preuve d'une grande énergie. Il cria des ordres aux servants, donna des conseils aux moines qui l'entouraient, envoya quelqu'un ouvrir toutes les portes de l'édifice, exhorta les présents à chercher des seaux et des récipients de n'importe quel genre, envoya vers les sources et les réserves d'eau de l'enceinte. Il ordonna aux vachers d'employer les mulets et les ânes pour transporter des jarres. Si ces dispositions avaient été données par un homme investi d'autorité, on les eût exécutées sur le champ. Mais les servants étaient habitués à recevoir des ordres de Remigio, les copistes de Malachi, tous de l'abbé. Et aucun des trois n'était hélas présent. Les moines de leurs yeux cherchaient l'abbé pour obtenir information et réconfort, et ils ne le trouvaient pas, quand moi seul savais qu'il était mort, ou allait mourir en ce moment, muré dans un boyau asphyxiant qui se transformait à présent en un four, en un taureau de Phalaris. Nicolas poussait les vachers d'un côté, mais quelque autre moine animé de bonnes intentions les poussait d'un autre côté. Certains frères avaient visiblement perdu leur calme, d'autres étaient encore engourdis de sommeil. Moi, j'essayais d'expliquer, car j'avais tout à fait recouvré l'usage de la parole, mais il est nécessaire de rappeler que j'étais quasiment nu après avoir jeté mon froc aux flammes, et la vue du jeune homme que j'étais, ensanglanté, le visage noirci de suie, le corps tout juste recouvert de duvet, hébété maintenant par le froid, ne devait certes pas inspirer confiance. Enfin, Nicolas parvint à entraîner des frères et d'autres gens dans les cuisines qu'entre-temps quelqu'un avait rendu accessible. Quelqu'un d'autre eut le bon sens d'apporter des torches. Nous trouvâmes les lieux en grand désordre et je compris que Guillaume devait l'avoir mis sans dessus-dessous pour chercher de l'eau et des récipients propres au transport. C'est alors précisément que je vis Guillaume qui paraissait à la porte du réfectoire, le visage couvert de petites brûlures, l'habit enfumé, une grande marmite dans les mains, et j'éprouvais de la pitié pour lui, pauvre allégorie de l'impuissance. Je compris que même s'il avait réussi à transporter au second étage un chaudron d'eau sans le renverser, et même s'il l'avait fait plus d'une fois, le résultat devait avoir été bien mince. Je me souvins de l'histoire de saint Augustin quand il voit un enfant qui tente de transvaser l'eau de la mer avec une cuillère. L'enfant était un ange, et il en agissait ainsi pour se jouer du saint qui prétendait pénétrer les mystères de la nature divine. Et comme l'ange, Guillaume me parla en s'appuyant, épuisé au chambranle de la porte.
« C'est impossible. Nous n'y réussirons jamais, fût-ce avec tous les moines de l'abbaye. La bibliothèque est perdue. »
Contrairement à l'ange, Guillaume pleurait. Je me serrai contre lui, tandis qu'il arrachait un linge d'une table et tentait de me couvrir. Nous nous arrêtâmes pour observer, défait désormais, ce qui se passait autour de nous. C'était une course désordonnée de gens. Certains montaient les mains nues et se croisaient dans l'escalier à vis avec d'autres qui, les mains nues, poussés par une sotte curiosité, avaient déjà grimpé et dégringolaient maintenant pour chercher des récipients. D'autres, plus avisés, cherchaient aussitôt chaudrons et bassines pour s'apercevoir que dans les cuisines, il n'y avait pas suffisamment d'eau. Tout à coup, l'immense salle fut envahie par des mulets qui transportaient des jarres et les vachers qui les menaient les déchargèrent et se disposèrent à porter l'eau en haut. Mais ils ne connaissaient pas le chemin pour monter au scriptorium, et il fallut du temps avant que certains copistes les missent au courant, et quand ils montaient, ils se heurtaient à ceux qui descendaient terrorisés. Des jarres se brisèrent, et l'eau se répandit à terre. D'autres furent passés le long de l'escalier à vis par des mains secourables. Je suivis le groupe et me trouvai dans le scriptorium. De l'accès à la bibliothèque provenait une fumée dense. Les derniers qui avaient tenté de se risquer plus haut vers la tour orientale revenaient déjà en toussant, les yeux rougis, et ils déclaraient qu'on ne pouvait plus pénétrer dans cet enfer. Je vis alors Bantz. Le visage altéré, il montait des cuisines avec un énorme récipient. Il entendit ce que disaient les rescapés et il les apostropha. « L'enfer vous avalera tous autant que vous êtes, tas de lâches !» Il se tourna comme pour chercher une aide et il me vit. « Atso !» s'écria-t-il. « La bibliothèque ! La bibliothèque !» Il n'attendit pas ma réponse. Il courut au pied de l'escalier et pénétra hardiment dans la fumée. Ce fut la dernière fois que je le vis. J'entendis un craquement qui provenait d'en haut. Des voûtes du scriptorium tombaient des éclats de pierre mêlés à de la chaux. Une clé de voûte sculptée en forme de fleur se détacha et il s'en fallut de peu qu'elle ne s'abattît sur ma tête. Le pavement du labyrinthe était en train de céder. À vive allure, je dégringolais au rez-de-chaussée et sortis en plein air. Quelques servants de bonne volonté avaient apporté des échelles à l'aide desquelles ils essayaient d'atteindre les verrières les plus hautes pour y jeter de l'eau. Mais les échelles les plus longues arrivaient à grand-peine aux verrières du scriptorium et qui s'y étaient hissés ne pouvaient les ouvrir de l'extérieur. Ils firent dire de les ouvrir de l'intérieur, mais personne à présent ne s'enhardissait plus à monter. Cependant, je regardais les fenêtres du troisième étage. La bibliothèque tout entière ne devait faire désormais qu'un seul brasier à l'épaisse fumée, et le feu courait de pièce en pièce, ouvrant par bonds ses flammes aux milliers et milliers de pages desséchées. Toutes les fenêtres étaient maintenant illuminées, une fumée noire sortait du toit. Le feu s'était communiqué au poutrage du comble. L'édifice, qui paraissait si solide et en tout point inébranlable, révélait en cette désastreuse circonstance sa faiblesse, ses lézardes, ses murs rongés jusqu'à l'intérieur, ces pierres déchaussées qui permettaient à la flamme d'atteindre les charpentes de bois où qu'elles fussent. Soudain, quelques verrières se brisèrent comme sous la poussée d'une force intérieure. Les étincelles jaillirent à l'extérieur, piquant de lumières errantes le noir de la nuit. Le vent, soufflant d'abord avec force, était devenu plus léger, et ce fut malchance, parce que fort, il aurait peut-être éteint les étincelles. Léger, il les transportait en redoublant leur ardeur, et avec elles, il faisait voltiger dans l'air des lambeaux de parchemin, frémissant de fragilité dans leur flamboiement. C'est alors qu'on entendit un violent craquement. Le pavement du labyrinthe avait cédé en plusieurs points, s'effondrant avec ses poutres enflammées sur l'étage inférieur, car je vis des langues de flammes s'élever du scriptorium, lui aussi tapissé de livres et d'armoires, et rempli de feuillets libres disposés sur des tables, prêts à la levée des étincelles. J'entendis des cris de désespoir provenir d'un groupe de copistes qui s'arrachaient les cheveux et se proposaient encore de monter héroïquement pour récupérer leur parchemin tant aimé. En vain, car les cuisines et le réfectoire n'étaient plus qu'un carrefour d'âmes perdues qui s'agitaient dans toutes les directions où chacun faisait obstacle à l'autre. Les gens se heurtaient, tombaient, qui détenait un récipient renversait le contenu salvateur, les mulets entrés dans les cuisines avaient senti la présence du feu, et ils se précipitaient en ruant vers les sorties, bousculant les moines et leurs palefreniers, terrorisés eux-mêmes. On voyait bien que, dans tous les cas, cette tourbe de vilains et d'hommes dévots et sages, mais inaptes, laissés la bride sur le cou, entraverait même les secours qui eussent pu arriver. Tout le plateau était en proie au désordre, mais nous n'étions qu'au début de la tragédie. En sortant par les verrières et par le toit, la nue triomphante des étincelles, portée par le vent, retombait de partout, touchant la couverture de l'église. Nul n'ignore combien de splendides cathédrales ont été vulnérables à la morsure du feu. Car la maison de Dieu apparaît bel et bien défendue, comme la Jérusalem céleste grâce à la pierre dont elle fait montre. Mais ses murs, ses pendentifs et ses voûtes reposent sur une fragile, encore qu'admirable, architecture de bois. Et si l'église de pierre rappelle les forêts les plus vénérables par ses colonnes qui se ramifient hautes dans les voûtes, audacieuses comme des chênes, de chênes, elle a souvent le corps, comme elle a également de bois son mobilier, les autels, les chœurs, les planches peintes, les bancs, les chaises, les candélabres. Ainsi en alla-t-il de l'église abbatiale au superbe portail qui m'avait tant fasciné le premier jour. Elle prit feu en très peu de temps. Les moines et toute la population du plateau comprirent alors qu'était en jeu la survivance même de l'abbaye et ils se mirent tous à courir encore plus bravement et confusément pour affronter le danger. L'église était certes plus accessible et donc plus défendable que la bibliothèque. La bibliothèque avait été condamnée par son impénétrabilité même, par le mystère qui la protégeait, par l'avarice de ses accès. L'église, maternellement ouverte à tous à l'heure de la prière, était ouverte à tous à l'heure du secours. Mais il n'y avait plus d'eau, ou du moins, il s'en pouvait trouver fort peu et en quantité insuffisante. Les sources en fournissaient avec une parcimonie non proportionnée à l'urgence du besoin. Tous auraient voulu éteindre l'incendie de l'église. Personne ne savait comment s'y prendre. En outre, le feu s'était communiqué par le haut, où il s'avérait malaisé de se hisser pour battre les flammes ou les étouffer avec de la terre et des chiffons. Et lorsque les flammes sortirent d'en bas, il était désormais inutile d'y jeter terre ou sable, car le plafond s'effondrait maintenant sur les sauveteurs dont bon nombre fut terrassé. Ainsi, aux cris de regret pour toutes les richesses dévorées par les flammes, s'unissaient à présent les cris de douleur pour les visages brûlés, les membres écrasés, les corps disparus sous l'écroulement soudain d'une voûte. Le vent s'était fait de nouveau impétueux, et plus impétueusement, il alimentait la propagation des flammes. Sitôt après l'église, prirent feu les sous, les étables, les bergeries et les écuries. Les animaux terrorisés brisèrent leurs liens, abattirent les portes, se répandirent à travers le plateau en hennissant, mugissant, bêlant, grognant horriblement. Des grappes d'étincelles se prirent dans la crinière de nombreux chevaux, et on vit l'esplanade sillonnée de créatures infernales, de destriers flamboyants qui renversaient tout sur leur chemin, n'avaient terme ni répit. Je vis le vieil Alinardo qui errait, éperdu, sans avoir compris ce qui se passait, roulé sous les sabots du magnifique Brunel, auréolé de feu, traîné dans la poussière et resté là, abandonné, pauvre chose informe. Mais je n'eus ni la possibilité ni le temps de le secourir, de pleurer sa faim, car de telles scènes se répétaient maintenant de partout. Les chevaux en flammes avaient transporté le feu là où le vent ne l'avait pas encore fait. À présent brûlaient aussi les ateliers et le logement des novices. Des troupes de personnes couraient d'un bout à l'autre de l'esplanade, sans but ou avec des buts illusoires. Je vis Nicolas, la tête blessée, l'habit en lambeaux qui, vaincu désormais, à genoux dans l'allée principale, maudissait la malédiction divine. Je vis Pacifico de Tivoli qui, renonçant à toute idée de secours, cherchait d'empoigner au passage un mulet emballé, et comme il y réussit, il me cria d'en faire autant et de fuir pour échapper à ce torve simulacre d'Armageddon. Je me demandais alors où était Guillaume et redoutais qu'il n'eût été emporté par un écroulement. Je le trouvais, après une longue recherche, aux alentours du cloître. Il tenait à la main son sac de voyage. Tandis que déjà le feu prenait à l'hôtellerie, il était monté dans sa cellule pour sauver au moins son très précieux bagage. Il avait aussi emporté mon sac où je trouvais de quoi me revêtir. Hors d'haleine, nous nous attardâmes un instant pour regarder ce qui advenait autour de nous. L'abbaye était désormais condamnée. Presque tous ses bâtiments étaient peu ou prou touchés par le feu. Ceux encore intacts ne l'auraient bientôt plus été car tout maintenant, depuis les éléments naturels jusqu'à la besogne confuse des sauveteurs, collaboraient à propager l'incendie. Restaient sauves les parties non bâties, le potager, le jardin devant le cloître. Il n'était plus possible de rien faire pour sauver les constructions, mais il suffisait d'abandonner l'idée de les sauver pour pouvoir tout observer sans danger en restant dans une zone découverte. Nous regardâmes l'église qui à présent brûlait lentement, car c'est le propre de ces grandes constructions que de flamber tout de suite dans leur partie en bois et puis d'agoniser pendant des heures, voire des jours. En revanche, l'édifice flambait encore. Là, le matériel combustible étant beaucoup plus riche, le feu se communiquait dans tout le scriptorium et il avait maintenant envahi le niveau des cuisines. Quant au troisième étage, où naguère et pendant des centaines d'années il y avait eu le labyrinthe, il était pratiquement détruit. C'était la plus grande bibliothèque de la chrétienté, dit Guillaume. Désormais, ajouta-t-il, l'Antéchrist est vraiment proche, car aucune science ne lui fera plus barrage. D'ailleurs, nous en avons vu le visage cette nuit.
Le visage de qui ? Demandai-je abasourdi.
J'ai nommé Rolleré. Dans ce visage ravagé par la haine de la philosophie, j'ai vu pour la première fois le portrait de l'Antéchrist, qui ne vient pas de la tribu de Judas, comme le veulent ses annonciateurs, ni d'un pays lointain. L'Antéchrist peut naître de la piété même, de l'excessif amour de Dieu ou de la vérité, comme l'hérétique naît du saint et le possédé et du voyant. Redoute, Hatzo, les prophètes et ceux qui sont disposés à mourir pour la vérité, car d'ordinaire, ils font mourir des multitudes avec eux, souvent avant eux, parfois à leur place. Rolleré a accompli une œuvre diabolique parce qu'il aimait d'une façon si lubrique sa vérité qu'il osa tout, afin de détruire à tout prix le mensonge. Rolleré avait peur du deuxième livre d'Aristote car celui-ci enseignait peut-être vraiment à déformer la face de toute vérité afin que nous ne devenions pas les esclaves de nos fantasmes. Le devoir de qui aime les hommes est peut-être de faire rire de la vérité. Faire rire la vérité. Car l'unique vérité est d'apprendre à nous libérer de la passion insensée pour la vérité.
Mais mon maître, hasardai-je affligé, vous parlez ainsi maintenant parce que vous êtes blessé au plus profond de votre âme. Pourtant, il y a bien une vérité, celle que vous avez découverte ce soir, celle à laquelle vous êtes arrivé en interprétant les traces que vous avez lues au cours des jours passés.
Jorge l'a emporté, mais vous, vous l'avez emporté sur Jorge, car vous avez mis à nu sa trame.
Il n'y avait point de trame, dit Guillaume, et moi je l'ai découverte par erreur.
L'affirmation était auto-contradictoire, et je ne saisis pas si Guillaume voulait réellement qu'elle le fût.
Mais c'était vrai que les empreintes dans la neige renvoyaient à Brunel, dis-je.
C'était vrai qu'Adelme s'était suicidée. C'était vrai que Venantius ne s'était pas noyé dans la jarre. C'était vrai que le labyrinthe était organisé comme vous l'avez imaginé.
C'était vrai qu'on entrait dans le Finis Africae en touchant le mot quatuor.
C'était vrai que le livre mystérieux était d'Aristote.
Je pourrais continuer à faire la liste de toutes les choses vraies que vous avez découvertes en vous servant de votre science.
Je n'ai jamais douté de la vérité des signes, Yatso. Ils sont la seule chose dont l'homme dispose pour s'orienter dans le monde. Ce que je n'ai pas compris, c'est la relation entre les signes. Je suis arrivé à Rolleré à travers un schéma apocalyptique qui semblait porter tous les crimes, cependant qu'il s'agissait d'un hasard. Je suis arrivé à Rolleré en cherchant l'auteur de tous les crimes, et nous avons découvert que chaque crime avait au fond un auteur différent,
ou même pas d'auteur du tout.
Je suis arrivé à Rolleré en suivant le dessein d'un esprit pervers et raisonneur. Et il n'y avait aucun dessein, ou plutôt, Rolleré soi-même avait été dépassé par son propre dessein initial. Ensuite avait commencé un enchaînement de causes et de causes concomitantes et de causes en contradiction entre elles qui s'étaient développées pour leur propre compte, créant des relations qui ne dépendaient d'aucun dessein.
Où gît toute ma sagesse ?
Je me suis comporté en homme obstiné, poursuivant un simulacre d'ordre, quand je devais bien savoir qu'il n'est point d'ordre dans l'univers.
Mais en imaginant des ordres erronés, vous avez tout de même trouvé quelque chose.
Tu as dit là une chose très belle, Atsu, je te remercie.
L'ordre que notre esprit imagine est comme un filet ou une échelle que l'on construit pour atteindre quelque chose. Mais après, on doit jeter l'échelle, car l'on découvre que si même elle servait, elle était dénuée de sens.
Hermus glorusame die Leiter abwerfen, so eranir aufgestiegen ist.
On dit comme ça?
Cela s'exprime ainsi dans ma langue.
Qui l'a dit?
Un mystique de tes contrées.
Il l'a écrit quelque part, je ne me rappelle plus où.
Et il n'est pas nécessaire que quelqu'un, un jour, retrouve ce manuscrit. Les seules vérités qui servent sont des instruments à jeter.
Vous ne pouvez rien vous reprocher, vous avez fait de votre mieux.
C'est le mieux des hommes qui est peu.
Il est difficile d'accepter l'idée qu'il ne peut y avoir un ordre dans l'univers parce qu'il offenserait la libre volonté de Dieu et son omnipotence.
Ainsi, la liberté de Dieu est notre condamnation, ou du moins la condamnation de notre superbe.
J'osais, pour la première et la dernière fois dans ma vie, une conclusion théologique.
Mais comment peut exister un être nécessaire totalement tissu de possible?
Quelle différence y a-t-il alors entre Dieu et le chaos originel?
Affirmer l'omnipotence absolue de Dieu et son absolue disponibilité en regard de ses choix mêmes n'équivaut-il pas à démontrer que Dieu n'existe pas?
Guillaume me regarda sans qu'aucun sentiment filtrât des linéaments de son visage et il dit
« Comment un savant pourrait-il continuer à communiquer son savoir s'il répondait oui à ta question ?»
Je ne compris pas le sens de ces paroles.
« Vous entendez dire, demandai-je, qu'il n'y aurait plus de savoir possible et communicable s'il manquait le critère même de la vérité? Ou bien que vous ne pourriez plus communiquer ce que vous savez parce que les autres ne vous le consentiraient pas ?»
En cet instant précis, un pan de comble du dortoir s'écroula dans un immense fracas, soufflant vers le haut une nue d'étincelles.
Une partie des brebis et des chèvres, qui erraient à travers la cour, nous frôlèrent en poussant d'atroces bêlements.
Des servants passèrent par bandes tout près de nous en criant, et il s'en fallut de peu qu'ils ne nous piétinassent.
« Il y a trop de confusion ici, » dit Guillaume.
« Non in commotione, non in commotione dominus. »